This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et c'est parti pour le JT Mode. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le JT Mode, l'émission mode qui veut en découdre avec l'industrie. Anthony Vincent, journaliste mode chez Mademoiselle, et on est en charmante compagnie ce soir. Sarah, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bonjour, moi c'est Sarah, et vous m'avez déjà vu sur le live Mademoiselle, sur d'autres streams, plus dans le gaming. Donc je suis créatrice de contenu sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, et dans d'autres réseaux sociaux. Je suis également créatrice de mode de ma propre marque de prêt-à-porter luxe pour hommes, et voilà.
Ok, c'est toujours bien de faire sa promo. Et là, je vous montre en même temps votre caméra. Du coup, théoriquement, c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Julia, peut-être, à toi, l'honneur ?
En regardant la caméra.
Ouais, tu peux me regarder, si tu veux.
Non, je préfère te regarder, toi. Moi, je m'appelle Julia. Je suis la cofondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Loom. Mm-hmm. Et je suis aussi membre d'un collectif d'entreprise qui s'appelle En Mode Climat. Qui est plutôt un espèce de lobby vertueux d'entreprise.
Est-ce qu'un lobby peut être vertueux ? On va en parler juste après.
Ouais.
Et toi, Vincent, qui es-tu ?
Alors, je suis Vincent Frédéric Colombo, guadeloupéen, basé à Paris depuis une bonne dizaine d'années. Je suis créateur d'une marque qui s'appelle Créole, qui est un acronyme pour conscience relative à l'émancipation outrepassant les entraves. C'est très long, mais ça explique un peu la philosophie de la chose. Co-fondateur d'une soirée assez connue qui s'appelle La Créole. Je fais de la direction de casting aussi un peu à côté, un peu stylisme. Et je suis DJ aussi,
okay.
Sous le nom de Mysterious Skin.
Ok, que de personnes multi-casquettes, hyper intéressant. Bienvenue donc dans le JT Mode. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans le chat, on va y répondre en direct. On est ensemble de 19h à 21h, donc c'est aussi le moment de partager le lien autour de vous, sur Twitter, sur Instagram, tout où vous pouvez en fait, afin que d'autres gens nous rejoignent, donc c'est super. On va parler d'abord de l'industrie de la mode, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le secteur. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué le mois dernier ? Ou jusqu'à maintenant en fait, dont vous aimeriez qu'on parle.
Moi oui, parce qu'en plus ça va arriver bientôt. Balenciaga par rapport. Ouais, non mais oui. Par rapport tout simplement au message d'excuses qu'ils ont fait et enfin toute la, en fait la communication qu'ils ont fait pour vraiment essayer de se rattraper de l'erreur qu'ils ont fait et parce qu'en fait ils veulent revenir tout simplement défiler et ils ne pouvaient pas revenir défiler suite à la polémique. Donc il y a eu ce gros message là, ça nous a montré aussi qu'ils se sont affiliés à une association pour les enfants, pour la protection pour les enfants. Enfin,
je pense qu'il faut d'abord poser le contexte, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce scandale là.
Oui, c'est suite à une communication d'une campagne en fait de Balenciaga en collaboration avec Adidas, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y avait le fameux sac qui était pris comme...
En fait c'était pas tant une collab, c'est qu'au sein de la collection il y avait certaines pièces
voilà. Et en fait dans cette campagne là on voyait des enfants exposés avec un univers BDSM, donc en fait ce qui était reproché c'était tout simplement de sexualiser l'enfant et en fait de mettre l'innocence enfantin dans cet univers-là qui n'est pas si innocent que ça. Donc voilà. Donc c'était en fait tout simplement deux univers qui ne sont pas adaptés et ça a fait polémique et la twittosphère a réagi là-dessus, est allée encore plus loin et en fait on remarquait certains détails de la campagne dont des documents par rapport à des procès sur
des
la pédopornographie,
en fait,
etc. Enfin, ces choses-là.
Il y a effectivement deux campagnes qui sont sorties coup sur coup par Balenciaga. Mm. D'après Demna, le directeur artistique de la marque, elles n'avaient pas de lien l'une avec l'autre. Et donc effectivement, d'un côté, il y a des enfants qui portaient des sacs d'inspiration BDSM. En tout cas, on pouvait les percevoir comme tels. Mais d'après Demna, c'était d'inspiration Indus, Techwear et compagnie. Oui. Il ne fallait pas y voir du BDSM. Et l'autre campagne, c'était des femmes dans des grands bureaux new-yorkais façon businesswoman, dont certaines avaient sur leur bureau énorme des documents sur leur, en mode paperasse étalés relatifs à un procès concernant la pédopornographie. Mmh. Et donc ça faisait deux coïncidences assez étonnantes et effectivement on a cherché des détails sur la campagne et Dana a très vite, enfin Balenciaga a très vite retiré les deux campagnes controversées en présentant ses excuses. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient porter plainte contre le scénographe Nicolas Desgardins. Ensuite, ils ont retiré leur plainte. Ils l'ont vraiment posée à New York. Et ensuite, ils ont fait profil bas. Donc ça a eu lieu en novembre. Les deux campagnes ont été révélées en novembre, le 22 novembre 2022. Et ensuite, ils ont fait profil bas. Kering a présenté ses excuses. Donc Balenciaga appartient au groupe de luxe Kering. Mm. Balenciaga a présenté ses excuses, Demna a présenté ses excuses, Kering a présenté ses excuses. Ils ont annoncé un plan d'action en mode on va faire des dons à la protection de l'enfance, s'associer à des assos sur le long terme pour que ça ne se reproduise pas, renforcer nos processus de validation d'image, etc. Et là en janvier, Demna a donné sa première interview à Vogue. L'interview n'est pas signée, on remarquera que l'interview n'est pas signée. Et pour présenter encore une fois ses excuses et dire mais c'est vraiment une coïncidence, je suis vraiment désolé et ça ne se reproduira pas. Et d'ailleurs ça m'a rappelé l'importance de se rapprocher du vêtement, donc je vais arrêter de faire des images choc et je vais me concentrer sur l'héritage de Cristobal Balenciaga. Voilà, est-ce que vous avez entendu parler de cette polémique, Vincent, Julia, et qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai entendu la polémique dans sa globalité, oui, les excuses vite fait, j'ai entendu le truc aussi. J'ai envie de dire, on érige tellement des designers stars en leur donnant tout droit. C'est vrai que ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Galliano il y a quelques années aussi, même si c'était dans d'autres contextes encore. Mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question où est la limite de la créativité, du positionnement choc pour essayer d'attiser le clic. Et surtout, même si on est derrière des grosses machines qui brassent des millions, qui font des chiffres d'affaires qu'on aimerait bien faire en tant que jeune créateur. Mais non, c'est juste quel est le prix de la liberté d'expression et aussi par rapport à la morale, tout simplement.
Oui.
Toi, Julia, est-ce que tu en avais entendu parler? Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de sortie de crise?
Ouais, non, c'est... non, j'aimerais bien voir à quel point ça impacte leur chiffre d'affaires. Enfin, si tu veux, il y a quand même, si tu regardes les scandales dans la mode, bon, moins dans le luxe, tu vois, mais genre, Nike, scandale des années 90, on se rend compte que c'est des gamins qui cousent leur ballon H&M, Rana Plaza, enfin, tu vois, genre, et récemment, Uniqlo, les Ouïghours et tout. Ces scandales-là, en tout cas, qui concernent les personnes qui produisent les vêtements, elles n'ont jamais abouti à une perte de coolitude des marques. Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme marque aujourd'hui plus puissante que Nike ou que Uniqlo? Et du coup, en tout cas, on voit que ces scandales-là, ils affectent pas les chiffres d'affaires des marques, mais c'est intéressant qu'un scandale qui touche plus seulement l'image, parce que finalement, c'est nul aussi ce qu'ils ont fait, etc., mais ça a l'air beaucoup plus puissant en termes de faire réagir les marques que les scandales qui touchent vraiment les conditions de travail, quoi.
Mais est-ce que tu penses que si Nike avait eu des polémiques pareilles aujourd'hui, ça aurait eu plus d'incidence sur leur chiffre d'affaires?
Bah, Nike, ils sont impliqués dans les questions Ouïghours. Hein.
Encore aujourd'hui, ouais.
Il y a un truc, Zara et tout. Après, c'est pas seulement une seule marque et tout. Donc, comme il y en a un paquet qui sont toujours impliqués, mais si tu veux faire un lien entre l'esclavage moderne et les marques de fringues, enfin, vraiment, tu prends le top des marques de fast fashion ou des marques de sportswear qui vendent aujourd'hui, elles sont toutes impliquées dedans. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup moins l'image de marque qu'un scandale qui est lié plutôt à une erreur j'ai même pas envie de dire erreur parce que ça minimiserait leur truc, mais genre un faux pas de communication.
Oui, effectivement, on en parle. Je vous montre les images sans faire trop de la pub pour Balenciaga non plus, mais du coup à gauche et à droite vous pouvez voir les enfants qui tiennent des sacs à main en forme de peluche qui portent des harnais, et au milieu vous pouvez voir Isabelle Huppert, ambassadrice Balenciaga, portait justement une des pièces de la collab avec Adidas de Balenciaga. Et sur le bureau, il y a de la paperasse et certains documents relatifs à un procès sur la pédopornographie aux États-Unis. Donc, drôle de coïncidence, effectivement. Et je ne crois pas que ça a eu d'impact sur leur chiffre d'affaires. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire, clairement.
Je pense que pour qu'ils s'excusent autant, pour qu'ils sortent le grand jeu comme ça,
c'est l'image qui a été énormément impactée.
Ouais.
Et il y a aussi les collaborations qu'ils avaient avec certaines célébrités qui commençaient à se remettre en question sur certains contrats. Mais après, c'est pas passé.
Genre aujourd'hui, il y a pas un truc où genre aujourd'hui, est-ce que c'est toujours désirable Balenciaga en sachant qu'il y a ce truc-là ? Enfin, je sais pas, je sais.
Bah franchement, c'est une bonne question. Je pense qu'on va le voir.
On va voir avec le défilé qui va arriver en soi. Hein.
Non, mais même en dehors, est-ce que là, sur les derniers événements, les stars ont porté du Balenciaga ? C'est aussi une question à se poser pour voir quel est le positionnement qu'ils ont par rapport à la problématique. Et c'est vrai que maintenant, c'est presque en mode « Ah oui, tu portes du Balenciaga, et est-ce que tu as connaissance de ce qui s'est passé ?» Est-ce que porter du Balenciaga, c'est cautionner forcément ce qu'ils ont fait ? C'est un peu compliqué.
Aussi. Bah, c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le cas de Kim Kardashian, qui a des enfants. Et on lui a reproché...
Qui a pris 15 millions pour répondre, mais bon.
Ouais,
pour réagir après avoir dit « Oui, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé auprès des équipes, mais bon, c'est pas le CV. »
Moi, je porte plus de Balenciaga, par exemple. Alors qu'avant, j'étais
vraiment... Moi non
plus,
j'en ai jamais apporté.
J'ai qu'une paire de baskets. Bon, c'est l'hiver, donc j'en porte pas parce qu'elles sont ajourées, mais c'est tout.
Non, mais effectivement, même je pense à des marques comme Dolce & Gabbana, tu vois. Enfin, tous les 6 mois, il y a un scandale raciste ou homophobe de leur part et plein de gens continuent à en porter et des célébrités sont payées pour en porter et elles le font quand même. Donc,
c'est ça exactement. Donc, je ne sais pas si ça va réellement.
Mais je pense pas que le grand public. Je pense pas que le grand public s'attarde vraiment sur l'idée des scandales quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même une notion. Enfin, ça dépend, parce qu'il y en a qui ont un éveil et une conscience sur comment ils consomment. Qu'est-ce que ça représente? Et après, il y a aussi des gens qui se disent tout simplement je veux véhiculer l'image de luxe sur moi. Donc en gros, c'est plutôt le nom qui importe plus que le produit. Donc je pense pas qu'à la Vallée Village, pour citer cette zone.
Est-ce qu'il y a un Balenciaga à la Vallée Village?
Oui.
Je ne sais pas.
Oui, oui.
Mais en tout cas,
il y en a.
Vu le nombre de gens qui font la queue à chaque solde, à chaque.
Après, Balenciaga, la Vallée Village, il n'y en a pas beaucoup de queue. Hein. C'est plus à Gucci. Hein.
Ah ouais? Non, mais
ouais.
Les deux appartiennent à Kering, l'argent va au même endroit.
Ouais.
Il y a quand même le questionnement de oui, est-ce que ça freinera forcément des gens à acheter? En soi, c'est plutôt les peluches qui étaient. Visé, ouais. Même si, déjà même pour le défilé, c'était offert, je crois, une partie des invités.
Ouais.
Je crois qu'il y en avait qui étaient offerts et ça choquait un peu à ce moment-là, mais sans plus, il a fallu qu'on le contextualise sur des enfants pour vraiment remettre dans le contexte la peluche. C'est plutôt un élément enfantin. Je pense qu'ils ont voulu jouer dessus, mais
c'est ouais, pas mais vu qu'il y avait ce truc avec les harnais, tout
non,
ça.
Je pense même pas que ça soit plus la peluche qui gêne que ça, c'est plutôt l'environnement qu'on a globalisé autour. Parce que c'est vrai qu'il y avait.
Il n'y a pas que la peluche.
Non,
il y a des
accessoires
de
BDSM qui sont clairement posés. Il y a des éléments avec des effets de traces de sang et puis. Même le travail de base du photographe, de ce que j'ai pu voir.
Et la styliste, étonnant.
Il n'y a pas que le photographe et la styliste, chacun a des univers très particuliers. Et c'est vrai que ça remet un peu en perspective, en fait, est-ce que ce n'est pas une espèce d'avènement de la pédopornographie dans un idéal qui est fantasmagorique, même si ce n'est pas forcément à but pédopornographique. Mais pourquoi flirter sur ce genre de,
d'esthétique,
d'esthétique, en fait c'est, enfin, on a déjà eu MeToo, ça a des débats de société qui sont toujours à traiter, mais pourquoi une marque, je sais pas comment ça s'est passé.
Parce que ça vend, ça fait parler.
C'est vrai que l'effet choc peut autant être encore dans l'idée porno chic qu'a développé Tom Ford avec Karen Rothfeld, bon, qui fait presque plus rien, j'ai l'impression.
Bah, même maintenant, ça paraît très daté. Enfin, vas-y, continue.
Non, mais qui choque presque plus d'une certaine manière, mais ça peut choquer dans certains territoires du monde aussi, en fonction des morales et des confessions des gens. En fait, c'est vrai qu'on on voit surtout le milieu de la mode comme un milieu occidentano-centré, et c'est vrai qu'on se pose pas la question de comment ça peut être perçu dans d'autres pays.
Ouais. Bah, en fait, c'est sûr que dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ça. Bah ça, c'est non, c'est je suis sûre que bah en fait des fois c'est souvent ça au niveau des collections, il y a des collections qui passent pas dans certains pays.
Oui, mais il y a plein de moi je pense qu'en fait en même temps, c'est un peu le travail des acheteurs aussi, c'est de filtrer aussi ce qui va arriver à la fin.
Exactement. Exactement. Après bon par rapport à cette polémique, est-ce qu'au final ça va réellement les impacter ou quoi? Non, parce que
moi,
on a vu tellement, mais tellement de polémiques.
Je me
pose
même la question, parce que je pense pas qu'ils vont s'amuser à dumper Demna aussitôt. En tout cas, je pense qu'ils attendent le renouveau, mais je pense que est-ce que c'était pas une stratégie marketing pour se renouveler aussi?
Bah, c'est possible, parce que si on regarde le...
Même si ça peut être un peu à double tranchant.
Je pense que vraiment, enfin, c'était pas calculé, quoi, comme truc. Je pense qu'un bad buzz, en fait, un truc comme ça où tu commences à t'excuser dans tous les coups, c'est que.
En plus, il fonctionnait super bien.
C'est que t'es allé trop loin.
Non, mais c'est que t'as pas pensé que ça pouvait faire ça. Enfin, le truc de bad. Enfin, quand tu commences à donner toute la thune à l'asso, à t'excuser trois fois, les gens qui rompent les partenariats et tout, c'est quand même un truc.
Côté
c'est un
déficit d'image. Très américain aussi dans ce côté procédurier de il faut faire pénitence publiquement. Bon, je pense qu'en Europe, on aime bien un peu philosopher sur tout un tas de sujets et porter un questionnement là-dessus. Mais après, c'est plus pour le marché américain. Je pense qu'ils sont vraiment dans ce côté. Bon,
Après, je pense que la protection de l'enfance, c'est un sujet particulier qui est un point de où tu peux vite atteindre un point de non-retour. Mais aussi, est-ce que c'est une stratégie ou pas? J'ai l'impression que dans l'esthétique de Damna chez Balenciaga, il y a eu une espèce de crescendo. Enfin, on a déjà... vu des polémiques autour des... Comment ?
On tournait un peu en rond, les collections restaient relativement...
Personnellement, j'ai jamais apprécié, mais c'est une autre question. Mais,
personnellement...
Il y a un crescendo. Quand on regarde bien, en fait, c'est juste qu'il y avait une surenchère de...
Oui, voilà. Il y a eu les sacs visuels, poubelles, il y a eu des chaussures déchirées.
On a l'impression que c'est genre... Balenciaga, ça devenait suprême, en fait. C'est faire des collabs
à tout va. Oui, c'est très streetwear.
Faire des collabs à tout va.
C'est sûr que le côté Christo Balenciaga était...
Il n'y avait plus de Christo Bal.
En fait, il n'y avait plus de Christo Bal. C'est ça. Mais le fait qu'il dit oui, on va revenir sur du Christo Bal Balenciaga, ça me fait rire aussi. Enfin...
Non, après, il y a toujours... Je pense que c'est plus dans la couture où vraiment il respectait un peu l'idée de l'héritage de Cristobal que dans le prêt-à-porter. Et pour le coup, il a beaucoup surpris sur le prêt-à-porter aussi en proposant des parties pris qui étaient beaucoup plus audacieux que Heider Ackermann pour Jean-Paul Gaultier.
Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de Heider Ackermann pour Jean-Paul Gaultier ou est-ce que vous voulez qu'on parle de, justement, en parlant d'héritage, de la mort de Paco Rabanne? Qu'est-ce que vous préférez? Il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment, on parle de ce que vous voulez. Ouais. Ou sinon, on peut aussi parler de Michel Ohayon, un truc beaucoup plus grand public, c'est le Fossoyeur de Camailleux, Gap France et de Cosport.
Ça, j'ai pas trop suivi en plus.
C'est vrai que j'ai suivi au tout début et après j'ai lâché.
Attendez, il y a une remarque de Faté dans le chat qui nous dit « Moi, je pense que ça peut être intéressant de choquer, mais pour dénoncer. Mais pour moi, c'est très mauvais goût. » Effectivement, la Dana, c'était la shock value pour la shock value où il n'y avait pas de volonté de dénoncer quoi que ce soit.
Ah oui, non mais là...
En tout cas, a priori, sur cette double campagne-là. Après, justement, je me rappelle de l'un de ses défilés avec une scénographie assez impressionnante qui mimait une espèce de tempête de neige pile au moment de l'attaque de la Russie... La Russie qui attaque l'Ukraine, ce défilé de tempête de neige où il y avait beaucoup de vêtements qui pouvaient évoquer des réfugiés en fait, en train d'essayer de fuir avec rien d'autre sur eux que des sacs poubelles pour essayer de stocker le plus de vêtements possible, qui traversaient comme ça malgré le froid et tout, donc c'était très poétique et aussi ça pouvait paraître comme engagé. Après, qu'est-ce qui a été fait véritablement, on ne sait pas. Je crois que Kering et Balenciaga à ce moment-là avaient fait l'annonce de dons et appelé à faire des dons pour les réfugiés en Ukraine, qui fuyaient l'Ukraine. Et aussi sur tous les sièges, il y avait aussi des drapeaux, des t-shirts en forme de drapeau ukrainien.
Ouais.
Donc voilà, là il y avait
les deux tenues aussi qui évoquaient les couleurs du drapeau.
À la fin, les deux tenues.
Les deux dernières tenues.
Oui, il y avait un look total look jaune et un total look bleu qui pouvait évoquer le drapeau ukrainien. Je crois qu'il y avait écrit un article là-dessus d'ailleurs. Il faut que je vous l'envoie dans le chat. Mais effectivement, Fateh, je vois ce que tu veux dire quand tu dis choqué pour dénoncer, c'est intéressant, mais choqué pour choquer, c'est de très mauvais goût. Donc voilà. C'était pour clôturer le sujet Balenciaga qui n'est même pas vraiment terminé, mais on vous tiendra au courant s'il y a des rebondissements encore dans le JT Mode. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre sujet? Donc Heider Ackermann, tu voulais en parler ou tu voulais parler du Fossoyeur de Camailleux?
Moi je veux parler du Fossoyeur de Camailleux, du coup je veux que tu parles de Ce mec dont je ne sais pas pourquoi.
Ah, ok. Alors, il s'appelle Michel O'Hayon.
Non, on fait d'abord.
Ah, pardon. Aïdor Ackermann. Ok, d'accord, excusez-moi. Alors, Aïdor Ackermann, c'est mon créateur préféré. Donc, voilà. Mais j'en parle tous les jours, donc c'est pour ça qu'on pouvait ne pas en parler, vraiment. Aïdor Ackermann, c'est le dernier invité à faire une collection pour la maison Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier est encore vivant, mais il a pris sa retraite des podiums et des ciseaux et des dés à coudre.
62 ans,
je crois qu'il a 68.
68, ok.
Ouais, 69 ans, 68.
Mais c'est une excellente question.
C'est juste une blague.
Non, mais ça m'intéresse.
Et je sors sur l'actu.
En tout cas, il a pris sa retraite et donc il a 70 ans. Donc, j'espère que le gouvernement ne se basera pas trop sur lui.
Voilà.
Si Jean-Paul le fait, non, on ne peut pas tous le faire. Tout le monde n'est pas Jean-Paul Gaultier. Désolé. Macron démission. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que Jean-Paul Gaultier, depuis qu'il a pris sa retraite, il a proposé un format assez innovant pour la suite de sa maison qui est d'inviter un ou une créatrice tous les 6 mois à réinventer les codes de sa maison. Et donc la première, ça a été Chitose Abbé de la maison Sakai, qui a réinventé les codes de la maison Jean-Paul Gaultier. Ensuite, on a eu Glenn Martens de White Project et de Tiezel à réinventer les codes de Jean-Paul Gaultier. Ensuite, Olivier Rousteing. Et maintenant, c'est Aïdor Ackermann qui a proposé sa vision des codes Jean-Paul Gaultier. Personnellement, j'ai adoré, mais je pense que je suis biaisé. Donc, racontez-moi ce que vous en avez pensé et je vais montrer pendant que vous en parlez des images comme ça. Julia, tu verras mieux de quoi il s'agit.
Derrière.
Attends, oui. Alors non, il n'y avait pas de rigueur, justement. C'était beaucoup moins premier degré que d'habitude.
Moi, enfin, je crois qu'on trouvait pas les codes Gaultier. En tout cas, les codes iconiques Gaultier étaient très, très peu présents. On était plus sur de la forme que de du savoir. Enfin, on était plus sur le savoir-faire plus que l'esthétique, à mon sens. Et on revenait presque sur des codes un peu old school de la couture. Moi, j'ai pas eu le côté très.
Voilà, vous voyez le défilé.
J'ai pas eu le côté war en fait.
Ok.
Et c'est, après, c'est vrai qu'il est passé juste derrière deux gros mastodontes en ce moment.
Ouais, c'est pour ça
qui,
aussi,
qui ont une esthétique assez forte. Et je crois que même Rousteing, c'est extrêmement bien. Même si certains pestent un peu sur le côté, oui, il y avait plein d'épingles, c'était mal fini et compagnie. Mais je trouvais que visuellement, on avait un hommage et une communication entre Olivier Rousteing et Jean-Paul Gaultier. Et là, je trouvais que. Enfin. Je trouvais ça triste.
C'était
même la musique, elle était hyper anxiogène.
La musique, il y avait notamment dans la bande son Baraillé, l'hymne de la révolution en Iran. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, du coup, c'est les premiers passages du défilé Jean-Paul Gaultier par Aïdor Ackermann. Si on cherche vraiment les codes Gaultier, on peut en trouver sans vouloir vous attaquer.
Le côté le bâti.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme côté?
Je crois qu'il y a le côté le bâti, il y a les plumes, il y avait.
Les plumes, on en trouve beaucoup chez Gaultier qui s'inspire beaucoup.
La référence au corset était presque.
Là, justement, le look qu'on voit maintenant, qu'on voit plus, c'était une espèce de bustier. Du coup, c'était un petit peu. Seins coniques et surtout le plissé qui était fait pour faire ces seins coniques assez plats, hein, bien sûr, beaucoup moins volumineux et pointu que ceux de Jean-Paul Gaultier. C'était un plissé grès et en fait Madame Grès c'était une grande inspiration pour Jean-Paul Gaultier mais aussi pour Aïdor Ackermann. Un plissé grès qui est très particulier. Voilà, là on retrouve un petit peu les seins coniques. C'est une évocation, c'est un clin d'œil, c'est pas du tout une référence premier degré. Là on voit davantage les seins coniques effectivement. Et les plumes, du coup, l'univers burlesque, l'univers cabaret, c'est très très présent chez Jean-Paul Gaultier aussi.
Mais il a apporté une sobriété tellement extra. Enfin, moi, il y a un côté extrêmement sobre.
Ouais,
c'est très Aïdor Ackermann.
Qui le rendait très ennuyeux, personnellement.
Enfin,
il y a un côté plus chic et moins fou, en fait.
Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Ou ce que vous en pensez maintenant avec ce que vous voyez.
Après, c'est peut-être aussi un univers qui ne nous frappe pas forcément personnellement.
Après, moi, Aïdor, je sais qu'il y a.
C'est pas fait pour Instagram.
Il y a à peu près 10 ans, c'est vrai qu'il était un peu presque voué à être soi-disant l'héritier de Karl Lagerfeld. Enfin,
Karl Lagerfeld a dit ça.
Il y a plein de gens qui disaient ça, mais après.
Là, on voit davantage le plissé gris.
Là, qu'on voit ce qu'il a proposé. Enfin. Moi, j'ai pas été très réceptif à ce qu'il a fait.
Moi, je trouve que par rapport à la hype qu'il y a eu autour de cette collection, j'ai du mal à la comprendre en fait.
Moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup.
Moi, j'ai vu il y a plein de
gens qui adorent.
Il y a plein, il y a plein de gens qui se sont, qui ont l'air d'avoir encensé la collection. Moi, j'ai trouvé assez monotone. C'est vrai qu'il y a le côté un peu les couleurs, même dans les doublures, qui ressemble beaucoup à Aïdor.
Oui, Aïdor Ackermann a la réputation d'être le meilleur coloriste de sa génération. Et effectivement, dans les formes, c'était très Aïdor Ackermann. Enfin, un tailoring très strict, très aiguisé. Et puis, les couleurs, effectivement, c'est très Aïdor. Mais ce que je veux dire, c'est juste que je pense que c'était un défilé qui était vraiment très très intimiste et presque confidentiel en fait, qui était pas fait pour le grand public. C'est pas un défilé taillé pour les réseaux quoi.
Ouais. Bah, je trouve qu'il y a 2-3 tenues qui peuvent faire du red carpet, mais sinon ça reste assez. C'est pas pour de la blogueuse, ça c'est sûr. Il n'y a pas un côté très... Bon, en même temps, est-ce que Gauthier a toujours été très, très sexy? Je ne sais pas. Je crois qu'il y avait juste une référence avec écrit Jean-Paul Gauthier sur une tenue en bleu, je crois, bleu et blanc, je crois.
Je crois qu'il y avait écrit Liberté.
C'est en gris et en côté métallisé. Bon, ça, c'est très beau, mais...
Ça, c'est des aiguilles pour coudre, en fait.
Ça, c'est le seul truc que je trouvais hyper catchy. Après, le dos, quand on voit que le dos, il n'y a rien, tu te dis, bon, on comprend que c'est pour le côté pratique.
Il faut pouvoir s'asseoir.
Oui.
Ouais.
Mais après...
Comment ça se lave?
Ah ben, si tu ne laves pas, c'est la haute couture. Hein.
Comment ça se lave?
Moi, j'ai adoré ce très hérisson... Haute couture, qui s'y prête.
Moi, ça m'ennuie un peu. Ouais, il y a que ça que
j'ai Liberté, j'écris ton nom, c'est en référence à Paul Éluard. Le poème de Paul Éluard.
J'ai pas reçu la note de la collection pour savoir de quoi il voulait en parler.
Vous pouvez lire mon article, je vous mets dans le tiers.
Pourtant, j'ai essayé de regarder vite fait 2-3 interviews qui en parlaient, mais je sais pas, je crois que ça m'a tellement désintéressé que j'ai pas réussi à me focus dessus.
Haider, si tu m'entends, tu es le bienvenu dans JT Man.
Oui, c'est clair, Haider. Moi, j'aime beaucoup.
Mais même le premier rang, c'était un premier rang beaucoup moins people international que les précédents défilés.
Ouais, ça c'est vrai.
C'est qui cette dame?
Et ça, c'est une jupe pantalon, ce qui est très Gauthier aussi.
Catherine Deneuve.
Il y a Katoche. C'est la Katoche la plus connue. Katoche, JP, et des proches d'Aïda Rakerman. Il y a Tilda Swinton, Timothée Chalamet. Je crois que c'est Carla Bruni qu'on a perçu.
Farida Kalfa aussi.
Il y a un côté très Chalamet.
Oui, oui. Mais surtout, en fait, quand tu dis que c'était très sérieux et très austère, effectivement, ce que j'ai le plus regretté dans ce défilé, car j'ai vu des côtés négatifs évidemment, j'ai un esprit critique, c'est que ça manque d'humour et d'interrogation.
Oui, il n'y avait pas de folie en fait.
Il y avait pas ça. Ouais, ça manquait
surtout
de la folie.
C'est surtout ça qui m'a surpris
en fait. C'est vrai qu'on rigole pas.
Parce que là, t'as vraiment un côté.
On rigole pas, personne ne sourit.
Il y a un côté presque veuve noire, surtout avec celle-là.
Et surtout un retour des mannequins maigrissimes. Désolé, mais il faut le dire.
Ouais, ça c'est vrai.
Cette robe, c'est ma préférée.
C'est vrai que ça rendrait pas pareil sur moi.
Après, ça rappelle un peu une esthétique très... comment il s'appelait encore la chanteuse Barbara.
Ah, oui, peut-être. Effectivement. En tout cas, voilà, c'était le défilé Jean-Paul Gaultier par Haider Ackermann.
Ça fonctionnerait bien pour un opéra, par exemple. Les tenues de performance pour de l'opéra. Il y a quelque chose d'hyper fort, malgré tout.
C'est très structuré.
Et cette tenue violette, je suis désolé. Moi, ça me fait tellement penser à du Cristobal. Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais on
dirait. Ça me fait penser à Pierre Cardin.
Moi, ça me fait penser.
Et Jean-Paul Gaultier a commencé chez Cardin.
Moi, ça me fait penser à Ballon de Baudruche.
C'est intéressant.
J'ai pas les mêmes rêves que vous. Ça me fait penser à l'anniversaire McDo, en fait.
Katoche a pas l'air d'apprécier.
Mais est-ce que
ouais, hein.
Mais putain, il y a Michel Sardou.
Moi, il y a une scène.
Non, je crois que c'est Baz Luhrmann. Attends, où ça?
Putain, le pauvre, ça doit être trop dur de se faire confondre avec Michel Sardou.
Moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait rire. Après, bon, je suis pas là pour bitcher, mais quand à la fin, quand Haider est venu, tu sentais que Jean-Paul voulait vraiment pas se lever.
Bah, il avait la flemme.
Ah oui.
Il a 70 ans, le pauvre.
Oui, mais
non, il l'a fait l'autre fois.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'autre fois, il était content avec
Olivier. Tu sens qu'à chaque fois, il a pas envie de se lever vraiment.
Tu veux dire qu'il a pas kiffé?
Ah non, mais je sais. Déjà, j'ai l'impression qu'il était un peu fermé.
En fait, le mood.
Là, c'est la mariée.
Défilé. En fait, l'ambiance, je pense, a fait que.
Mais c'était méga austère, en fait. Pourtant, il y a des pièces, c'est vraiment beau, mais après, c'est vraiment single by single. Mais quand tu regardes l'ensemble du truc, ça donne pas envie.
Toi, c'est ta cam. Anthony.
Moi, c'est ma cam, mais j'aime la mode d'auteur. Et du coup, quand Haider Ackermann fait du Haider Ackermann, je suis à fond, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a pas fait du Jean-Paul Gaultier.
Le truc, en fait, c'est même Glenn Martin, qui a fait une interprétation de Gaultier qui était très personnelle, parce qu'on ressentait pas énorme. Enfin, il y a des codes qui étaient assez visuels, quand même, de Jean-Paul, qui étaient très identifiables. Mais par rapport à Haider, là, je crois que c'était encore plus déconnecté, en fait. C'est un truc qui, moi, m'a un peu ennuyé, en fait.
Ok.
Après, je pense pas qu'ils sont obligés à chaque saison de faire du grand spectacle, puisqu'il faut quand même, au final, vendre. C'est quand même le but, malgré tout, de chaque collection, c'est que ça puisse vendre.
Bah, la haute couture, c'est pas tellement là pour vendre, c'est là pour vendre du parfum, quoi.
Malgré tout, ils font quand même une partie de leur... Surtout qu'ils font que du... Ils ont le parfum, mais ils ont également les petites collections capsules en prêt-à-porter, avec des créateurs et la haute couture.
Après, je crois que c'était que pour Glenn Martens qu'il y avait une collection de prêt-à-porter inspirée de la haute couture, parce que c'était prévu avant même qu'ils soient choisis comme créateurs invités.
En revanche... Non, parce qu'ils avaient fait aussi une mini collection.
Pour Olivier Rousteing ?
Non, bien avant. Avec 5 créateurs, 5 jeunes créateurs aussi qui étaient hyper intéressants.
On avait reçu Marine M. Toumo d'ailleurs, qui avait fait partie de ces 5 créateurs avec Nyx et d'autres encore. Alain Crochetti, je me rappelle plus du nom des autres. Mais en tout cas, il y a Faté dans le cas qui nous dit moi j'aime bien, c'est paisible. Après, je suis grave pas une fashion. Et elle adore qu'on la surnomme.
C'est mon équipe là.
mais après, bizarre, moi je crois que c'est des pièces qui peuvent être belles pour des expos. Mais après pour...
C'est des pièces de savoir-faire, c'est pas des pièces généreuses, c'est pas des pièces grand public. Et il y avait un truc très élitiste là-dedans et ça m'a dérangé. Jean-Paul Gaultier, c'est un créateur qui est très populaire, au sens noble et ignoble du terme en fait. On peut se dire, oui, populaire, être populaire, c'est un mauvais truc, mais en fait non, c'est génial en fait d'être un créateur qui parle à tout le monde, à des personnes très aisées et à des personnes qui sont plus modestes. Et ça, on n'a pas retrouvé ça dans ses collections, je suis d'accord. Il y a Manon Ricciou qui dit qui va porter ça? Moi. Non, j'ai pas les moyens. Ok. Et bien, voilà, c'était Jean-Paul Gaultier par Edouard Carman. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Dans la haute couture, il y avait Schiaparelli avec les têtes de lion, mais on n'est pas obligé d'en parler. Hein. C'est comme vous voulez. Sinon, on peut parler du Fossoyeur. Tu t'avais l'air emballée, Julia, tout à l'heure.
Ouais, mais je sais pas si c'est tellement le Fossoyeur, mais en tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment dans
la fast fashion française.
Ouais, c'est ça, dans le milieu de gamme, en tout cas dans le retail.
Est-ce qu'on peut appeler ça du milieu de gamme? Bah attends, on va faire un petit point contexte.
Le contexte, Anthony, le contexte.
Alors, en gros, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'on a vu Camailleux déposer le bilan, ensuite être en liquidation judiciaire. On se dit, est-ce que ça va être racheté, est-ce que ça va être sauvé? Et non, et en fait, finalement, ça a été liquidé. Puis ça a été racheté par Célio, voilà. Et aussi...
Ils ont racheté que le nom de la marque, ils ont pas racheté. Enfin, les magasins sont fermés, la marque est fermée.
Tout le monde a été viré.
Tout le monde est viré, les meufs, elles retrouvent pas un job.
C'est effroyable ce qui s'est passé. Et en fait, on s'est rendu compte que Camailleux venait d'être acheté pendant la pandémie par Michel Ohayon, qui est un grand financier français d'origine marocaine, qui justement a fait fortune en quelque sorte dans l'immobilier avec sa firme qui s'appelle FIB, Fonds d'investissement immobilier bordelais.
Foncière
immobilière bordelaise.
Ouais, un truc comme ça.
FIB. Et en fait, je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous pouvez vérifier en direct ce que je raconte. Et en gros, il a racheté pour 1 euro symbolique Camailleux pendant la pandémie. Il a aussi racheté comme ça, il me semble, GoSport et Gap France. Voilà, c'est ça.
Oui.
Pendant le Covid, au début de la crise, et après avoir justement déjà fait fortune dans l'immobilier, soi-disant, enfin en quelque sorte. Et en fait, on s'est rendu compte que face à l'infortune de Camailleux, qu'il y avait d'autres entreprises comme ça en péril, GoSport et Gap France, qui sont très très inquiètes et qui sont en train d'être liquidées en fait, de très fortes chances. Et même chose pour... Et dans le sillage de tout ce désastre dans l'industrie textile des entreprises de Michel Ohayon, on s'est rendu compte aussi qu'il avait vendu sur plan plusieurs appartements à Marseille, appartements qui n'ont jamais été livrés car ils n'ont pas été finis, car les entreprises de Michel Ohayon ne payent pas en fait. Donc voilà, et c'est toujours pas fini. Michel Ohayon, il possède aussi 25 Galeries Lafayette en région, et du coup là aussi les syndicats de ces Galeries Lafayette ont fait part de leurs inquiétudes et ils possèdent également d'autres hôtels de luxe, le Grand Hôtel de Bordeaux, le Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles et le Sheraton de Roissy. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Le groupe Hermione People and Brands qui possède tout ça revendique 544 points de vente, 4560 collaborateurs, 1 milliard de chiffre d'affaires, 312 mm² de surface commerciale, 18 millions de clients fidèles. Bah, ça reste à prouver. C'est très compliqué pour tous les employés qui dépendent en fait de plus ou moins directement de cet homme. Et voilà, donc c'est vraiment hyper inquiétant. Galerie Lafayette, en région, les salariés de ces franchises, pardon, de Galerie Lafayette sont extrêmement inquiets et appellent à faire grève, à débrayer. Donc on en est là. Et en fait, je dis ça, on a cité le nom de Michel Oyon, mais en fait, c'est tout le secteur de l'industrie textile française qui est en péril. Hein. Il y a aussi des inquiétudes pour Jennifer, pour Pinky. Enfin, c'est très compliqué pour tout l'ensemble de la filière.
San Marina.
Ouais. San Marina, André et tout. Enfin, c'est un même groupe, il me semble. Donc, c'est très compliqué. Toi, est-ce que t'as entendu parler de cette histoire, Julia?
Un peu, mon neveu. Ouais. Mais non, mais enfin, moi, ce que j'aime pas dans la manière dont tu, enfin.
Vas-y,
je vais pas le dire comme ça. Non, mais ce que j'aime pas le truc de faire reporter sur la responsabilité, c'est comme si.
Sur un homme?
Ouais, c'est comme s'il y avait. En fait, c'est lui qui a merdé, et du coup, sans lui, Gosport ça cartonnerait et Camailleux ça cartonnerait, et c'est comme ça, en fait. Il y a un truc où, structurel qui est en train de se passer dans l'industrie textile où c'est en train de se polariser. Et en gros, où est-ce que les Français vont faire leurs achats? Ils vont faire leurs achats maintenant chez l'ultra fast fashion, qui est genre.
Chine,
le niveau de
ça,
c'est Chine, mais ça, j'avais commencé Primark. En fait, c'est le très low cost. Donc, genre, qui c'est qui va bien en ce moment? Primark, Shein, mais tu sais, Action, Nose, Kiabi, enfin, ouais. tous les gens qui vendent vraiment pas cher, qui font du discount à tout va, eux, ils vont super bien. Les chiffres de Kiabi, là, ils sont, je crois qu'ils sont très bons, etc. Et l'autre partie qui va bien, c'est le luxe. Mais tu vois, par exemple, si je te dis dans l'absolu, est-ce que ça t'étonne que Gosport, ça n'aille pas? Qui c'est la concurrence de Gosport?
Decathlon.
Ouais. Est-ce que tu vas chez Gosport ou tu vas chez Decathlon?
Decathlon.
Qu'est-ce que tu vas acheter chez Gosport?
Je sais pas, j'y vais pas.
Tu vas acheter de la marque en fait. Enfin, tu vois, c'était un peu ça, c'est ça, un truc comme ça. Mais en fait, maintenant tu vas acheter de la marque, tu vas directement au Nike Store ou tu vas au Citadium, etc.
Veja.
En fait, il y a un espèce de. Ou tu vas chez Veja, enfin, si tu voulais de la marque de sportswear, etc. Donc il y a un phénomène qui est. C'est le low cost qui est en train de gagner le marché. Et donc, les entreprises qui sont les plus capables de faire du low cost, c'est déjà. Bon, tout ce qui est en ligne, enfin tu vois, Chine, le truc 100% sans magasin, c'est hyper facile. Mais c'est surtout des entreprises les moins scrupuleuses qui peuvent faire les trucs les moins chers. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as Camailleux, moi j'avais un peu côtoyé les équipes d'un an. Enfin, vraiment, les mecs essayaient de faire des choses, quoi. Ils essayaient de faire un peu d'éco-responsabilité, un peu de choses et tout. T'inquiète que c'est vraiment pas des questions que se pose Primark, quoi. Primark, ils sont là, bam! 6 euros une paire de baskets, tu vois. Genre, il y a un truc, genre, bon, il y a des gens qui sont morts, tu vois. Enfin, ils ont de. Enfin, c'est pas.
Non, mais les baskets coûtent 20 euros.
Ouais. Non, mais vraiment. Et donc, il y a un peu. Enfin, qu'est-ce que. Enfin, ce que je. Qu'il y ait de la mauvaise gestion de la part de ce mec, ça m'étonnerait pas et tout, mais en même temps, il a racheté Camailleux 1 euro. Enfin, tu vois, ça veut dire que déjà, ça devait pas être la joie.
C'était déjà la merde, ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contexte de l'industrie textile qui est catastrophique parce que donc, le marché est en train de se faire manger par l'ultra fast fashion, donc par les très bas prix. Et donc, c'est une catastrophe parce qu'il n'y a rien qui s'y oppose. Et donc, il n'y a rien, réglementairement, en termes de loi, qui s'oppose à tout ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette tendance n'est que le début. Et donc, c'est une catastrophe pour plein de choses, mais si on prend vraiment, genre à court terme, juste, c'est de l'emploi en France, plutôt de personnes pas très diplômées, plutôt des femmes, familles monoparentales et tout, qui perdent leur job en région, en province, et que.
Oui, socialement, c'est catastrophique.
Enfin, c'est une hécatombe d'emploi. C'est une hécatombe d'emploi de personnes plus précaires, quoi. Et rien ne s'y oppose, quoi. Ouais, et derrière, tu sais, t'as des ouvertures de Primark et t'as des élus. Il y a un reportage qui va bientôt sortir sur LCP. T'as une ouverture de Primark à Angers et t'as plein d'élus qui viennent applaudir le fait qu'il y a un Primark qui ouvre. Ils disent, il crée 100 emplois. Mais pour un Primark qui ouvre et qui crée 100 emplois.
C'est 5 Camailleux qui ferment.
Mais t'as combien de magasins? Enfin, tu vois, genre, donc c'est vraiment.
Ouais, c'est ça, c'est pas équitable. Enfin, on a plus de pertes que de choses, en fait.
Ouais. Oui, non, mais c'est une catastrophe économique qui est en train de se passer. Enfin, vraiment. Et c'est. On laisse faire, quoi. Mais en tout cas, là, ce qui risque de se passer, c'est que toutes les enseignes de notre adolescence, toutes les enseignes de. Enfin, je sais pas si vous avez grandi à Paris ou ailleurs, mais j'ai grandi à Nancy.
Je n'ai pas d'âge.
Toutes les enseignes de la rue Saint-Jean à Nancy, donc qui était la rue commerciale, je sais qu'il va plus en rester beaucoup, quoi. Même H&M va pas très bien, si tu veux, par rapport à la concurrence de l'ultra fast fashion. Donc il y a quand même un truc. C'est super inquiétant.
Ouais, c'est hyper inquiétant. Zara a rendu ses retours payants, H&M c'était déjà le cas depuis longtemps, Asos y est en train d'y songer, donc toutes ces enseignes-là aussi sont en train de compter leurs sous, quoi.
Mais même Asos, même Zara essaie d'upgrade un peu leur prix.
Ouais.
Oui, et en plus ils font des collabs déclarés comme tels, très premium maintenant, ils ont fait une collab avec Narciso Rodriguez il y a pas longtemps, enfin ouais. C'est très étonnant de leur part. Mais là c'est parce que aussi le fondateur est en train de léguer à sa fille qui veut rendre Zara plus premium effectivement. Ouais. Ils ont fermé Uterque, qui était leur chez Inditex, le truc plus haut de gamme, un peu comme le COS chez H&M, et Zara est en train de prendre ce positionnement-là, quoi, plus premium. Et effectivement, oui, ça monte les prix, la créativité aussi, et ça devient un peu une marque
plus premium. Mais ils ont raison de faire ça. Mmh.
Bah effectivement, tu disais Julia, qu'est-ce qui s'oppose à l'ultra fast fashion?
En fait, t'as deux combats. Si tu veux, t'es une marque, la textile, bon, soit t'es comme moi, t'es dans une espèce de micro-niche qui est le truc éthique, etc. Donc ça, c'est, mais donc dans ce cas, tu vises pas le mass market, quoi. Mais soit tu deviens hyper stylé, et ça, c'est vraiment le truc de Zara, soit tu deviens hyper pas cher. Et c'est Primark. Et donc, généralement, il faut quand même un petit peu avoir... Enfin, Primark, il y a quand même des trucs assez stylés, etc. Et donc, si tu deviens hyper stylé, tu peux te premiumiser. Et c'est un peu le move qu'a fait Aigle en France. Aigle, c'était un peu une marque vieillissante et tout. Ils ont fait un move éco-responsable assez bold. Et ensuite, paf, ils ont engagé les mecs d'études pour faire leur DA. Mmh. Et il y a un vrai truc où je trouve que maintenant Aigle c'est premium. Enfin, tu vois, genre, il y a un. C'est... Mais d'ailleurs, c'est cher.
Mais ça a toujours été cher, non?
Mais je sais pas, ça avait toujours été.
Les bottes en caoutchouc de Aigle, elles ont toujours coûté cher, il me semble. Tu vois, enfin,
75% de la prod, c'est. Des bottes en caoutchouc, c'est de la France.
Ouais.
Ce qui explique le prix. Il y a des trucs où t'es moins là. Par contre, ça n'explique pas le prix. Mais. Mais tu vois, Kukai, c'était cher aussi.
Mais justement, du coup, tu parlais de milieu de gamme. Pour moi, Kukai, Naf Naf et compagnie, c'est du milieu de gamme. Mais Camailleux, est-ce que c'était pas de la fast fashion à la française, tu vois?
Si. C'est un contenu de milieu de gamme, quoi. Enfin, ouais. C'est pas de l'ultra fast fashion. Et c'était même pas autant de la fast fashion que H&M et Zara.
Mmh. Oui.
Ouais.
Je dirais rien qu'en termes de... Ni de prix, ni de renouvellement des collections, ni de style. Tu vois, genre,
c'était pas
aussi bon que Zara.
Voilà, la cadence, c'est pas la même.
C'était pas si fast que ça comparé à la concurrence Zara H&M.
Ouais.
En termes de production de collection et tout, ouais, c'est vrai.
Ouais. Donc, voilà.
En tout cas, t'as raison, Julia, de dire que faire porter le chapeau à Michel Oyon tout seul, c'est un travers, c'est un raccourci qui permet de pas de voir le fond du problème.
Et c'est possible que ça soit un gros magouilleur. C'est possible que ça soit un gros magouilleur, que ça soit un fossoyeur de trucs, mais ça n'enlève pas qu'il y a un contexte qui accélère ce lien, et ça arrivera aussi à des enseignes qui appartiennent pas à
Michel Oyon.
Ouais, voilà.
Effectivement, t'as totalement raison, merci de le souligner, Julia. Ça arrivera à Célio, à Jules, on sait pas. Ouais. C'est très probable, effectivement. Et Michel Oyon ne porte pas le chapeau tout seul, c'est structurel, comme tu le dis très bien. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, Vincent? Est-ce que ça te fait peur? Ou est-ce que tu dis que c'est du tri sélectif, en fait?
C'est des marques qui... que je connais le nom, mais que j'ai jamais fréquenté en tant que client, en tout cas.
Mais ce que ça dit du secteur?
Ben, en soi, tout est une notion de positionnement, forcément. C'est vrai qu'on essaie d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus identifiable, beaucoup plus... même des pièces COS, je pense que c'est des pièces que les gens ont plaisir à porter, et puis c'est des, même que des jeunes portent facilement. On regarde juste par ce qu'on appelle les influenceurs, avec les fameux Outfit of the Day, il y a quand même des pièces qui sont des marques, et des enseignes qui sont plus facilement portées, adaptées par une cible. Je suis pas sûr que Kukai, Camailleux font partie de ce spectre. À part si c'est vraiment un positionnement qui se veut encore pas forcément élitiste, mais en tout cas se rapprocher de l'élite, il faut quand même ressembler un peu au luxe, et même des marques de milieu de gamme essaient quand même d'avoir une image un peu plus luxe, de se renouveler en termes de ligne éditoriale, de direction artistique, ou même de nommer quelqu'un qui est un peu plus identifiable pour aider aussi à la visibilité. Non, je sais plus si j'ai bien dit ou pas.
Oui, visibilité.
Oui, okay. J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise.
Exposition.
De la marque, je sais pas, quand on regarde Desigual qui est repris par Jean-Paul Goud.
Oui, pour une collab avec Stella Jean, il me semble. Donc, ouais.
Oui, donc c'est des... Enfin, il y a une idée de se dire, oui, on veut rester attractif, on veut se positionner, même si on reste dans une certaine gamme de prix, ou même si on a une image qui est un peu vieillissante par rapport à ce qui s'est passé, à l'historique d'une marque, en fait, de montrer qu'on peut aller de l'avant, que des collaborations ne se fassent pas qu'avec des influenceurs, mais aussi avec des créateurs. Après, est-ce que l'économie de leur marché leur permet aussi?
C'est une vaste question, effectivement. Je me rappelle de Anne-Valérie Haschke, qui était une grande créatrice française, qui avait même l'appellation haute couture. Elle avait été nommée directrice artistique de Comptoir des Cotonniers il y a 10 ans. Ça paraissait assez bold et ça a duré 3 ans. Et après, ils l'ont viré parce que ça chiffrait pas assez, tu vois. Et ils l'ont viré, j'en sais rien, mais ils n'ont pas renouvelé son contrat. C'est la manière polie de le dire. Et voilà. Et en fait, faire des collabs avec des influenceurs, influenceuses, souvent, ça marche mieux, quoi.
Mais Uniqlo avec le maire,
ça marche bien, je crois.
Même avec JW Anderson, il a une collection presque par an qui sort.
Mais c'est parce que les deux fonctionnent très bien en Asie. Anne-Valérie Haschke, elle n'est pas si connue que ça. Et en Europe et en Asie.
Parce que j'ai l'impression qu'Uniqlo, c'était un peu jackpot, ça. Enfin, il y a vraiment un truc, ça a premiumisé leur pièce et.
Ouais, c'est Uniqlo U. Si vous allez chez Uniqlo, c'est encore Le Maire.
Donc tout Uniqlo U, c'est Le Maire qui fait.
La plupart. Il me semble que c'est tout. Mais en tout cas, il me semble qu'il a la DA de la ligne U depuis quelques années chez Uniqlo. Ouais. Avant, il y avait déjà une gamme qui s'appelait U et c'était pas lui, et maintenant c'est lui. Mm-hmm. Mais il y avait aussi des collabs avec Chili Sander, vraiment canon, quoi.
Donc c'est que des créateurs. Attends, je pose mes questions.
Bien sûr,
c'est que des créateurs déjà premium, quoi. Enfin, déjà.
Oui, qui sont déjà un peu installés et qui, je pense, amènent juste leur patte un peu dans leur.
C'est ça.
Dans leur proposition de collection. En fait,
c'est ça. Pour aussi en même temps monter la position de la marque.
Et pour vous, ça a réussi à faire monter en gamme Uniqlo, ça ?
Je sais pas.
Pour moi, ça, des clients qui peuvent pas s'acheter du Le Maire, du Jill Sanders, du JW Anderson, ça peut être une première approche pour avoir des pièces de ces créateurs-là, si c'est par la production Uniqlo.
Moi, je trouve que la marque Uniqlo, je trouve qu'elle a par rapport au temps, parce que je me rappelle à l'époque quand j'étais au lycée, etc., je trouve qu'elle commence à vouloir être un peu plus fast. Genre un peu plus.
Après, elle a toujours été de l'ultra fast fashion.
Oui, fast fashion.
Je crois qu'il y avait quand même une gamme plus resserrée. Mais non, j'ai pas assez de souvenirs.
Quand ça a ouvert à Opéra.
Que la gamme était resserrée, tu vois, genre que t'avais genre.
C'était des classiques.
Tu vois, genre, un colorway, t'avais 75 000 couleurs, mais tu vois, genre, t'avais.
C'était hyper lisible. C'est ça.
Maintenant, t'as vraiment.
Maintenant, il y a plus de choses, et même, je trouve que comment on consomme, ils font tout pour que vraiment les clients consomment beaucoup la marque. Ouais. Et quand tu viens chez Uniqlo, il y a beaucoup de collaborations. En fait, tu ne viens pas que pour acheter une ou deux pièces, c'est vraiment plusieurs pièces. Plusieurs pièces, ça peut même.
La ligne sport.
C'est exactement ça. Et même j'avais remarqué quelque chose que Uniqlo font. Ils sont en train de à 100% installer les caisses automatiques. Il n'y a plus de caissiers.
Oui, et des caissiers ça marche très bien. Je vois, je suis halluciné. J'avoue, je vais souvent chez Decathlon. Enfin, souvent.
Ah ouais,
quand j'ai besoin d'avoir des trucs de sport, je vais chez Decathlon.
Pour quel look tu vas chez Decathlon?
Pour mes looks de sport. quand je vais à la boxe et tout. Bref. Et effectivement, je sais pas, je suis impressionné. Genre, ce que t'as trouvé en rayon, tu le mets dans la caisse, qui est une espèce de gros bac, et il scanne tout seul. Ouais. Enfin,
j'ai une copine qui m'a raconté une histoire comme ça. Donc, d'un pote à elle qui va chez Decathlon et qui se dit, il n'y a pas d'antivol. Du coup, il lui dit trop bien, trop facile. Donc, il prend pour 300 balles de trucs et il sort du magasin. Et en fait, il y a les vigiles qui l'arrêtent qui me disent mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait, c'est genre l'antivol est dans l'étiquette de compo. Et il était là, les bouffons, ils ont pas d'antivol.
Ouais. Naïf, voilà, naïf. C'est des puces NFC dans les.
C'est des puces, RFID.
RFID.
C'est des micro-puces qui sont dans l'étiquette de composition.
Ok.
Et donc c'est ce qui permet de scanner directement en caisse. C'est pour ça que t'as même pas besoin de faire comme ça dans la caisse. Tu mets tout dans le bac. Et en fait ça scanne ton truc. Et ça fait aussi.
Mais moi je suis impressionnée. Genre c'est de tricher, mais ça marche pas.
C'est
genre
une catastrophe environnementale ces trucs-là. Tu sais, tu prends des métaux rares et tu les mets dans des micro-puces. Et ensuite, il y a une dispersion, tu les récupères jamais. Enfin, jamais tu. Enfin, c'est du gaspillage de métaux rares pour un usage quasi unique.
Oui, parce que ça sert qu'au moment du passage en caisse, effectivement.
Tu fais ça, et ensuite, ok, ça a servi à s'économiser le poste d'un caissier ou d'une caissière,
mais c'est
et
ça.
À pas mettre un antivol. Mais vraiment, c'est toute l'aberration de... Tu sais, genre, tu sais que t'es dans un monde à ressources finies, tu sais ouais. qu'il y a dans un monde où tu dois préserver les ressources et tout, et genre, toi, tu vas prendre des métaux rares, tu vas les miniaturiser, tu vas les utiliser seulement pour un usage unique, et ce qu'il y a bien un truc qui est sûr, c'est que ces métaux-là, jamais tu les récupéreras. Parce qu'il y en a tellement des petits... en petite quantité, ils sont tellement impossibles à récupérer que c'est vraiment perdu. Donc c'est vraiment de
en plus pour réduire l'emploi.
Ah, mais c'est vraiment un gaspillage pour un gain de productivité, pour payer moins de gens, et après eux ils vont déguiser ça sous un truc en disant mais non mais ça permet la traçabilité.
Mais en plus ils sont à fond avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la ADEME. Et l'ADEME, ouais. En mode ouais, on fait une espèce de Nutri-Score pour les vêtements, ce qui est en train de devenir une loi en France ouais. et en Europe. On aurait pu en parler d'ailleurs.
Piège environnemental.
Ouais.
C'est chiant, hein.
Sur la traçabilité et tout, et donc ils se présentent comme des fers de lance, et en fait.
Qui ça, Uniqlo ?
Décathlon ?
Ah, Décathlon, oui.
Mais attends, on va parler de Décathlon, de Uniqlo, parce qu'il y a plusieurs remarques intéressantes dans le chat. Il y a Faté qui disait, je me faisais la réflexion aussi, il n'y a pas de boutique qui ferme Uniqlo, il me semble.
Ah non, Uniqlo, ça cartonne.
Ouais, ça cartonne en ce moment.
Et Faté est d'accord, elle dit, il y a une dichotomie entre soit ça monte en gamme, soit c'est de l'ultra fast fashion. Mmh. Je trouve qu'il y a une sorte de spéculation autour des collabs. Oui, c'est vrai. Et franchement, Uniqlo, c'est pas mal. Moi, j'y vais, il y a plein de choses, genre la banane ça cartonne, je vais pas être coupable, j'en ai deux. Effectivement, la banane de chez Uniqlo elle est partout sur TikTok, c'est assez fascinant. Il y a Manon.
C'est pas cher, hein, Uniqlo. Hein. C'est... En fait, là, par exemple, leurs jeans, ils les ont passés de 40 à 50 balles. Bah, enfin, tu vois, c'est pas du.
Pas cher. Enfin...
C'est... Non, mais c'est pas cher pour toi, parce que t'achètes à Hilder et Carmen, je sais pas quoi.
Des prototypes sur Vinted, ok.
Par rapport à 3000 boules, ouais, effectivement, t'es bien, etc. Mais disons que. Enfin, regarde les prix de Chine et Uniqlo, c'est du simple double, par exemple.
Oui, enfin, oui,
en
oui,
fait, l'ultra fast fashion, un jean, c'est genre 15 balles.
Ouais,
donc, il y a un truc où, genre, 50 balles, c'est 3 fois plus cher. Enfin, tu vois, il y a un. Enfin, un peu plus, mais.
Bon,
j'ai fait S, mais. Non, mais du coup, il y a un truc où c'est un peu plus milieu. C'est un peu plus comme Zara, en fait, en positionnement à prix.
Oui,
c'est pas du tout le low cost, etc. Donc, eux, ils sont aussi. Et dernièrement, là, ils ont augmenté le prix de leurs jeans, enfin, de certains trucs, à cause de l'augmentation du prix des matières premières et tout, mais ils sont un peu plus premium.
Oui, oui, oui. C'est
et d'ailleurs, ça m'étonne pas que la personne dans le chat dise qu'elle aime bien, parce que c'est. Ils ont des super collaborations et ils sont très bons en qualité aussi. Mmh. C'est vraiment des bonnes coupes, enfin des bonnes coupes, je sais pas, mais en tout cas la bonne qualité et tout. Par contre, ils sont impliqués dans le scandale ouïghour. Hein, il faudra, enfin vraiment, ouais, c'est genre, ouais, faut pas se laisser avoir là-dessus. Hein, c'est vraiment, c'est ça l'Uniqlo. Hein.
Uniqlo, ça manipule les gens comme ça. Hein. Les gens, ils voient que voilà, les coupes, elles sont basiques, elles sont bien. Ça, tout le monde a accès à Uniqlo, il y a pas de souci et. Le fait qu'aussi on consomme vite Uniqlo, il y a aussi bah, le prix. Bon, le prix, c'est pas non plus le prix de la fast fashion, mais c'est un prix abordable, entre guillemets. Et bah, c'est surtout la qualité, en fait. C'est,
ouais.
En fait, Uniqlo se présente, comment on voit les campagnes publicitaires qu'il y a sur Uniqlo, etc. C'est montré un peu comme une marque qui est très qualitative, en fait, au niveau de leurs produits. Alors qu'en fait, au niveau de la fabrication,
t'as pas la même définition de qualité, toi.
Non, mais après, moi, je vois assez peu de pubs dans ma vie.
Je regarde non, beaucoup ce qu'il y a dans le métro, même.
Il y a des campagnes d'Uniqlo. Ah oui, ça
en fait,
des
ouais, trucs, pour les trucs
Lifewear.
Ouais.
C'est ça, ouais. Et même dans leurs magasins, en fait, comment c'est fait. Mais comment c'est. En fait, dans leurs magasins, ça que j'avais remarqué l'autre fois quand je suis allée, c'était pour accompagner mon frère. Et je remarquais qu'en fait, la manière comment c'est présenté. C'est vraiment fait de manière à, voilà, c'est un produit qualitatif qui va à tout le monde, c'est un basique.
Ouais, mais ils vont jamais te dire, personne
n'a. C'est presque le Apple du.
C'est exactement ça.
Mais je trouve que ça fait vraiment hyper centre commercial. Enfin, il y a 40 000 rêves par rayon.
Comparé à Zara, Zara avec les mannequins qui font des poses bizarres là.
Bah, Zara, c'est plus mode. Quoi.
Non, mais Zara, ouais, tu vends de la mode, Uniqlo, tu vends un rapport qualité-prix.
C'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais,
même si je trouve que, du coup, le fait les collaborations avec le maire et tout. Enfin, je trouve que c'est toute la ligne U.
Oui. Ah,
tout le monde a le Uniqlo U. Les mecs, enfin à Paris et je sais pas ailleurs, pardon. Fouettez-moi. J'ai l'impression que tous les mecs à Paris ont le Uniqlo U un petit peu lourd, quoi.
Tellement pas là-bas que je sais pas.
Bah moi j'allais souvent à celui d'Opéra quand ça venait d'ouvrir, tu vois. Et déjà à l'époque, je me disais mais il y a 1000 références de tout. Tu vois.
J'achète chez Uniqlo, pour moi c'est des chaussettes.
Bah tu vois, rien que le fait que toi t'ailles acheter, enfin tu vois, ça veut dire que déjà t'as une référence, ça veut dire que tu te dis
les chaussettes sont bien.
Si je vais là, ça veut dire qu'elles sont bien et qu'il y a un bon rapport qualité prix.
Il y avait enfin surtout pour le choix coloré, et c'était surtout c'est une période, il y avait tellement la mode de la socket ou des chaussettes oui. un peu basses, donc c'est l'une des rares marques qui avait des chaussettes un peu montantes.
C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Dans le chat, il y a Manon Richoux qui était morte de rire face à ce qu'on racontait sur Decathlon et les antivols. Il pensait que c'était le gros rond, l'antivol, morte de rire. Oui. Il y a Dayoubou qui dit « Quand je suis arrivée, vous évoquiez COS, C-O-S. Y a-t-il quelque chose à savoir pour approfondir ma culture générale éthique ? Je pense que c'est ma marque préférée. » Alors, désolé de te décevoir, c'est...
À qui appartient COS ?
COS appartient au groupe H&M.
C'est comme Another Story...
Another Stories, Arquette, H&M...
Ils avaient
C'est
Monkey.
Tout.
C'est tout.
Ah oui, Monkey, oui, je crois que t'as raison.
Les chiens.
Ouais, je crois que t'as raison.
Après tu peux regarder, par exemple, Arquette, là. Enfin, tu peux regarder, il y a quand même un truc. Qu'est-ce qui est important quand t'achètes une fringue sur l'éthique ? En tout cas, en neuf, tu regardes le pays de fabrication et tu regardes si c'est du coton bio. Et je sais pas s'ils ont du coton bio, COS, mais ils ont quand même pas mal de trucs qui sont
faits... Oui, il y a du coton bio. Oui.
Il y a du coton bio. Bah, tu regardes, tu peux aller chez COS et tu choisis que les produits qui sont coton bio, made in Portugal. Et dès que c'est made in Bangladesh, tu dis non. Voilà. Mais du coup, je trouve que c'est un bon critère, comme ça au moins tu favorises les
trucs. Faire
le mais bon, à la fin, t'enrichis H&M, quoi. C'est pas l'idéal.
Oui, pardon, j'ai écorché ton pseudo, Daijubu, qui signifie tout va bien en japonais, d'accord. Et donc, effectivement, après aussi, tu peux. Enfin, ça sert à rien de culpabiliser outre mesure. Tu peux aussi te dire que bah, si t'achètes un jean chez COS et qu'il dure des années, c'est ok, tu vois, enfin, même s'il n'est pas en coton bio. Le but, c'est d'acheter des vêtements qui nous durent le plus longtemps possible et de les reprendre si besoin et tout.
Ouais.
Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, en fait, je pense que c'est tout pour le tour d'horizon de l'industrie de la mode, car ça fait déjà une heure qu'on parle.
On a appris de belles sur Aider Ackerman.
Enfin, si vous avez des questions sur Aider Ackerman ou sur Uniqlo ou ce que sais-je, allez-y, on peut encore y répondre évidemment.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.